La bibliothèque sonore offre un service que les aveugles et malvoyants apprécient.
Oui, et nous allons parler pendant un quart d'heure de la bibliothèque sonore des Alpes d'Haute-Provence avec l'instigateur de ce beau service qui est Jacques Thomas. Bonjour Jacques.
Bonjour François.
Nous allons parler avec vous de tous ces services que vous offrez aux personnes qui sont déficientes visuelles. Et c'est le cas de Gilbert Gasperini qui nous a rejoint. Bonjour Gilbert.
Bonjour Jacques.
Vous allez nous dire pourquoi vous allez utiliser les services de la bibliothèque sonore. Mais avant tout, Jacques Thomas, qu'est-ce que c'est très exactement une bibliothèque sonore ?
Alors, une bibliothèque sonore, c'est un établissement d'abord d'une association nationale, qui est l'association des donneurs de voix, association reconnue d'utilité publique depuis 1977. Et nous sommes 116 bibliothèques sonores dans toute la France, ce qui fait que tout le territoire national est desservi. Alors, une petite précision, aujourd'hui, les bibliothèques sonores ne concernent pas que les déficients visuels. Nous pouvons aujourd'hui prêter nos audiolivres et nos audiorevues à toutes les personnes qui sont empêchées de lire, quelle que soit la raison. Alors, bien sûr, souvent, c'est la déficience visuelle, mais ça peut être un handicap moteur qui fait qu'on ne peut pas tenir un livre ou qu'on ne peut pas tourner les pages. Ça peut être parce qu'on tremble. Il y a entre Parkinson, tremblement essentiel, etc. Il y a plusieurs maladies de ce genre-là. Ça peut être aussi, alors chez les jeunes aujourd'hui, tous les jeunes dyslexiques qui ne sont pas capables de déchiffrer ce qu'ils voient et pour lesquels nous enregistrons les ouvrages de littérature scolaire nécessaires pour leur cursus scolaire et également des ouvrages de littérature jeunesse pour la lecture plaisir.
Le principe de la bibliothèque sonore, c'est effectivement de lire et d'enregistrer des lectures par des donneurs de voix pour pouvoir les être ensuite écoutés par des auditeurs avisés.
Voilà. Alors, quand les personnes s'inscrivent, on leur demande simplement de fournir un certificat médical comme quoi elles ne peuvent pas lire. Et l'inscription est gratuite, le prêt des livres est gratuit, et il n'est même pas nécessaire de venir s'inscrire à la bibliothèque sonore. On peut très bien s'inscrire par téléphone, puisque nous desservons tout le département 04 et même quelques communes limitrophes. Les personnes reçoivent les livres gratuitement par la poste et peuvent les retourner à la bibliothèque gratuitement par la poste. Donc, le service pour les bénéficiaires que nous appelons les audiolecteurs est totalement gratuit.
C'est une association qui existe depuis plusieurs années sur la place de Manosque.
Alors, à Manosque, nous avons fêté les 20 ans en 2013. Donc, voilà, la bibliothèque sonore a été créée.
Si je compte bien, ça fait 22 ans, donc.
Ça fait 22 ans. Voilà. Elle a été créée en 1993, mais au niveau national, la première bibliothèque sonore a été créée en 1972.
Voilà. Nous allons revenir avec vous après, Jacques, sur les donneurs de voix et sur l'intérêt que les personnes portent à votre association en prêtant leur voix. Gilbert Gasperini, vous êtes un médecin bien connu sur la place de Manosque. Vous êtes maintenant en retraite et vous souffrez de dégénérescence maculaire liée à l'âge, autrement dit une perte visuelle progressive. Je suppose que vous vous soignez et vous utilisez les services de la bibliothèque sonore.
C'est exact. J'ai entendu parler de la bibliothèque sonore par des amis. Et j'y suis allé, ça fait maintenant un peu plus d'un mois. Et j'ai été étonné de la qualité du service qui est fourni, des facilités que l'on a, justement, comme le disait Jacques tout à l'heure, le fait de pouvoir envoyer les disques et les recevoir par la poste sans bouger de chez soi et gratuitement, ça met la chose à la portée de tout le monde, quels que soient les moyens financiers de la personne.
Qu'est-ce qu'on ressent avant de passer à la lecture audio lorsqu'on n'arrive plus à lire ce qu'on lisait régulièrement ?
Un grand vide. Je crois que c'est... parce qu'il ne s'agit pas seulement de la lecture, mais on ne peut plus voir la télévision. On peut l'entendre, bien sûr, mais on ne peut pas la voir. C'est quand même... Une privation importante. Et finalement, on se sent un petit peu exclu de la société.
Ça vous a permis, donc, les bibliothèques sonores, de lire des ouvrages particuliers ?
Ah ben, oui, je puise dans la liste qui est disponible, qui comprend plus de 2000 titres. J'ai fait ma liste préférentielle. Et chaque fois que j'en renvoie des livres, on me renvoie automatiquement des disques pris dans la liste que j'ai fournie.
Qu'est-ce que vous avez lu ce dernier mois ?
Eh bien, ce dernier mois, j'ai lu le livre de François Bayrou sur Henri IV. J'ai lu le roman des rois de Max Gallo. Évidemment, tout ça, ça marque ma prédilection pour l'histoire. Je viens de finir le bouquin de Truman Capote, De sang-froid. Et j'ai lu aussi un livre écrit par un Anglais qui s'intitule Le bonheur en Provence. Ce qui est assez remarquable
pour
un Anglais de trouver son bonheur chez nous. D'ailleurs, il se moque volontiers de ses compatriotes, de leur façon de vivre, de leur façon de voir la Provence.
Donc c'est bien parce qu'il y a des recherches qui sont des recherches à la fois intellectuelles. Vous avez besoin effectivement de nourrir votre vie avec des connaissances diverses et nombreuses. Et en même temps, il y a un côté amusement, un côté un peu, évidemment, divertissement.
Ah, bien entendu, il y a le côté amusement. D'ailleurs, dans la liste que j'ai fournie, il y a aussi des livres d'humour. Que je vais avoir l'occasion de lire un jour ou l'autre.
Alors, il y a des revues aussi, Jacques Thomas, qui sont proposées à la Bibliothèque Sonore ?
Absolument. Nous avons 25 titres de revues mensuelles et hebdomadaires, donc qui sont enregistrés à chaque parution. Alors, les livres, aujourd'hui, donc, ce sont des CD au format MP3, mais on peut également utiliser différents types de supports numériques. Nous avons des lecteurs aujourd'hui qui utilisent des clés USB, des cartes mémoire SD, et nous avons un serveur national sur Internet qui permet aussi de télécharger les audio-revues, les audio-livres, la littérature scolaire, etc.
C'est pas un peu compliqué, ces manipulations techniques ?
Alors, ça peut être compliqué pour les personnes malvoyantes, par exemple, qui ne sont pas formées aux outils qui permettent d'aller sur Internet. Mais c'est vrai que les personnes les plus jeunes qui ont accès à ces outils peuvent facilement télécharger sur Internet. Mais nous jouons sur les deux tableaux. Les personnes qui n'ont pas Internet, elles ont des CD MP3, ou bien nous leur copions nous-mêmes les fichiers sur des baladeurs ou des cartes mémoire. Voilà. Mais la très grande majorité, en fait, utilise les CD MP3. Avec soit leur lecteur de CD compatible qu'ils peuvent posséder à la maison, et puis nous avons aussi un lecteur spécifique qui s'appelle le lecteur Victor, qui est un lecteur spécialement adapté pour les déficients visuels et qui apporte un grand confort de lecture, qui lui malheureusement n'est pas gratuit. C'est la seule chose chez nous qui n'est pas gratuite, mais M. Gasperini peut peut-être en parler du lecteur Victor. Je pense qu'il l'utilise.
Bien sûr, c'est un lecteur absolument remarquable parce que une de ses qualités, par exemple, c'est quand on commence un disque, il y a des disques qui durent 10 heures. On ne va pas lire 10 heures d'affilée. Donc il y a un moment où on s'interrompt au bout d'un certain temps. Quand on remet le disque en circuit, il redémarre à ce point-là.
Même si vous l'avez arrêté complètement.
Absolument.
Donc il est mémorisé.
Même si sur la sortie.
Ouais. Même si je l'ai éjecté. Quand je le réintroduis, que je remets le lecteur en marche, il démarre à l'endroit où je l'ai arrêté.
On va dire à la page où vous l'avez arrêté.
À la page, exactement, oui. À la page, tout à fait.
Jacques, dans le top 10 des livres qui sont empruntés à la Bibliothèque Sonore de Manos, qu'est-ce qu'on trouve ?
Ah, qu'est-ce qu'on trouve ? Oh, ben, écoutez, on trouve essentiellement les romans policiers. Hein, ça, c'est les auteurs, parmi les auteurs les plus lus, c'est Agatha Christie, c'est Mary Higgins Clark, c'est Ex Braya.
Il n'y a pas un Provençal qui s'appelle Pierre Magnan dedans, non ?
Il y a aussi Pierre Magnan, il est dans le top 10, bon. Mais Jean Giono aussi. Et
très
dans
bien.
Le top 10, oui.
Très bien. Jacques, vous avez, je suppose, besoin de donneurs de voix. Vous avez toujours ce besoin. Je vous connais depuis déjà pas mal d'années et c'est récurrent. Qui peut devenir donneur de voix et comment ça se passe ?
Alors, pour devenir donneur de voix, la première des choses, c'est de disposer d'un ordinateur et d'être relativement familier avec l'utilisation de l'ordinateur, puisque aujourd'hui, nous enregistrons uniquement en numérique. Et donc, chaque donneur de voix enregistre chez lui, sur son ordinateur, avec les logiciels gratuits que nous lui fournissons, et après avoir suivi, bien sûr, une petite formation pour l'utilisation de ces logiciels. Voilà.
Il y a aussi une formation, pardon, sur la lecture, l'intonation.
Alors, on fait une petite formation sur la lecture, sur le rythme surtout, etc. Voilà, la manière de faire vivre le texte, parce que ça, c'est très important. Voilà, mais si vous voulez, c'est pas le premier critère, c'est d'abord d'être à l'aise avec la technique. Et le deuxième critère, ensuite, c'est pas une question de qualité de la voix ni quoi que ce soit, c'est une question de qualité de la lecture. C'est ça qui est le plus important, savoir donner le sens, faire comprendre le sens du texte et savoir avoir le bon rythme dans la lecture, c'est-à-dire laisser les respirations nécessaires, permettre à l'auditeur d'avoir le temps d'assimiler ce qui a été dit, etc. Voilà, donc c'est là-dessus que porte la formation.
Je suppose que vous distillez vos conseils aussi aux donneurs de voix, surtout les débutants.
Oui, bien sûr. Donc les débutants, on les forme. Au départ, on les forme. Et puis, on les forme aussi en cours de route. Hein, parce que...
Il y a un accompagnement, quoi.
Il y a toujours moyen de s'améliorer. Voilà. Et puis, au niveau national, nous avons un concours qui s'appelle le concours de la voix de l'année, où il y a des lectures à faire, des extraits de livres, les mêmes pour tout le monde, pour les voix féminines, pour les voix masculines. Et ces lectures sont jugées par des audiolecteurs qui font partie du jury au niveau national, ce qui permet à chaque donneur de voix d'avoir une critique de sa lecture faite par ceux à qui elle est destinée, les audiolecteurs. Et ça a permis ces dernières années d'avoir de faire des progrès extraordinaires dans la qualité des enregistrements, et ça permet à chaque donneur de voix d'améliorer sa lecture.
Est-ce que vous avez une idée du nombre de donneurs de voix que vous avez et également d'audiolecteurs ?
Alors, ici, dans le département, nous avons actuellement 109 audiolecteurs et nous avons 15 donneurs de voix. Voilà. Et au niveau national, nous sommes plus de 2500 donneurs de voix et nous sommes 10 800 à peu près audiolecteurs sur l'ensemble du territoire, ce qui est très peu par rapport au nombre de bénéficiaires potentiels. C'est vraiment epsilonesque. C'est moins de 1% de la population qui pourrait en bénéficier. Et malheureusement, ces personnes qui pourraient en bénéficier ne savent pas que les bibliothèques sonores existent.
D'où l'intérêt de votre venue ici même, voilà, à Manosque, sur notre plateau. Les bibliothèques sonores de France travaillent aussi main dans la main, c'est-à-dire que, oui, si Gilbert veut commander un livre, par exemple, à Tours ou à Marseille, c'est possible ?
Tout à fait. Chaque audiolecteur peut être inscrit à plusieurs bibliothèques sonores. Il n'y a absolument aucune contrainte. Et bien entendu, nous faisons des échanges entre bibliothèques, via Internet, nous échangeons des livres, parce que chaque bibliothèque a son propre catalogue, quand même. D'accord ? Voilà. Et avec, bien sûr, des recoupements, un petit peu. Et donc, nous échangeons des livres lorsque les audiolecteurs nous demandent un livre qui ne figure pas à notre catalogue, à nous. Nous pouvons le trouver dans une autre bibliothèque. Et s'il n'a jamais été enregistré, nous allons demander un audiolecteur de l'enregistrer.
Dernière question, Jacques Thomas. Comment est-ce que vous fonctionnez ? Vous avez des aides institutionnelles, privées ?
Alors, notre premier moyen de fonctionnement, c'est le bénévolat. Nous sommes 4500 bénévoles et au niveau national, nous avons simplement un salarié et demi. Donc, c'est essentiellement le bénévolat qui nous fait fonctionner. Et ensuite, bien sûr, pour assurer quand même nos charges financières, qui sont modestes, mais il faut quand même les assurer. Alors, nous sommes aidés. Bon, nous, dans le département, ici, nous sommes aidés par la DLVA, qui nous donne une subvention annuelle.
C'est l'agglomération manosquine.
Voilà. Nous sommes aidés par le conseil départemental. Nous sommes aidés par le Lions Club de Manosque, qui a été le fondateur de la bibliothèque, et le Lions Club de Digne, également. Le club Soroptimiste, et puis un certain nombre de communes qui nous font des dons, enfin des petites subventions, et les audiolecteurs qui, lorsqu'ils le peuvent, eh ben aussi nous font un don lorsqu'ils sont contents du service qu'on leur apporte.
Pour soutenir votre association. Voilà. La Bibliothèque Sonore, si vous voulez en savoir plus, il y a un site internet, bibliothèque-sonore-04.org, un numéro de téléphone également, 04 92 87 85 32, 04 92 87 85 32, et vous êtes situé au numéro 12 de la place des Marchands, en plein cœur de ville, c'est à Manosque. Merci Jacques Thomas de votre intervention.
Merci
aussi
François.
Gilbert Gasperini. Bonne lecture avec les services de la Bibliothèque Sonore. Voilà, c'est la fin du journal. Merci aussi Nathalie pour la régie. Bonne journée à tous et à demain.
Et merci à vous.
Merci.